9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche, les Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Madame Hélène Bidard.
Bonjour très chère Samia Messaoudi.
Merci infiniment d'être venue ce dimanche matin à Beurre FM et vous y êtes invité parce que un jour est important dans l'histoire des femmes, c'est le 8 mars et nous allons tout au long de notre rencontre ce dimanche matin parler de cette journée de combat qui est le 8 mars. Mais avant de parler d'elle, de ce 8 mars, parler de vous, Hélène Bidard, vous êtes adjointe à la mairie de Paris, vous êtes chargée de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire, vous êtes membre du Parti communiste français, vous avez été élue au secrétariat politique du Parti de la gauche, enfin vous serez aux élections européenne du 9 juin 2024. Vous serez candidate avec Léon Desfontaines et Fabien Roussel. Voilà pour votre présentation politique. Je viens de le dire, tout au long de cette émission, on va évoquer ce combat féministe que vous avez en vous, un combat politique, mais un combat de femmes. Et puis, je ne peux pas échapper à parler de ce que fut ce mercredi 28 février 2024 oui. dans l'histoire des femmes, une date importante qui est déjà dans la mémoire collective des femmes, une lutte enfin gagnée, celui de l'exigence que l'IVG soit dans la Constitution, soit une constitutionnalisation de ce combat du droit à l'IVG, c'est-à-dire que ce droit s'inscrit dans la Constitution. Ouais. Longue bataille, 3 heures de débat hier, ce 28 février, 3 heures de débat dans l'hémicycle du Sénat. Elle est votée à 267 voix pour, 50 voix contre. Des femmes militantes féministes sont dans l'hémicycle et applaudissent vivement, sont heureuses de ce succès, de ce combat, tandis que d'autres femmes, et vous en êtes, Madame Hélène Bidard, des militantes et des élus se rassemblent avec la banderole « Avorter est un droit fondamental ». Quand l'annonce a été faite, c'était une victoire, une histoire pour les militantes et les élus comme vous aussi, victoire idéologique aussi.
Tout à fait.
Alors, c'était quoi pour vous ce sentiment d'avoir gagné ?
D'abord, c'est un sentiment d'avoir gagné pour une génération de militantes jeunes et qui militent sur ces questions-là depuis une dizaine d'années. Mais c'est aussi un sentiment de s'inscrire dans les pas d'autres militantes féministes qui, elles, portent ce combat depuis des années. On revient de loin, quoi. Et puis, voilà, depuis le manifeste.
Voilà, les 329. Voilà. Vous pensez pour Gisèle Halimi, pour toutes ces femmes.
Exactement, pour Simone de Beauvoir, pour Simone Veil, pour Gisèle Halimi, pour toutes les militantes. Parce que c'était pas juste Simone Veil, c'était toutes celles qui étaient dans la rue et qui se battaient, pour celles qui organisaient des avortements clandestins à l'époque, pour celles qui essayaient de sauver les femmes. Donc c'est aussi s'inscrire sur ça, dans cette continuité-là. Après, ce qui, moi, m'a frappée, c'est plusieurs choses. D'abord, entendre principalement des hommes dire « mais finalement, il n'y aurait pas de problème en France ». Moi, comme élue, comme adjointe à Paris, je les vois, les remises en cause du droit à l'IVG. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de problème. Au mois de juin, on a été victime par un groupuscule qui s'appelle Les Survivants de dégradation sur les vélos. On a déposé plainte et ça a été compliqué de déposer plainte pour moi. Je l'ai annoncé, mais après, il faut le faire concrètement. Ça a été compliqué de déposer plainte au nom de la ville de Paris. J'ai porté une campagne aussi pour affirmer le droit à l'IVG à Paris. Et là aussi, c'était pas si facile que ça. Et donc, du coup, on sent les pressions, on les voit, on voit ceux qui veulent s'organiser pour entraver le droit à l'IVG, parce qu'ils sont fondamentalement contre les droits des femmes. Et puis après, il y a aussi des choses plus insidieuses, c'est-à-dire fermer les maternités, c'est en fait fermer les centres IVG aussi. Et ça a été un saccage ces dernières années avec une politique de volonté de casse de la santé de proximité, c'est casser aussi l'accès à l'IVG. Et donc du coup, protéger le droit à l'IVG en le mettant dans la Constitution, c'est très important. Parce que il n'y aura pas le droit à l'IVG en tant que tel, il y aura une garantie. Mais c'est déjà ça, une liberté garantie, c'est déjà ça, c'est déjà un pas important, et c'est très important parce qu'il faut pas attendre que ça aille très mal prendre une assurance, il faut prendre l'assurance maintenant, parce que ces remises en cause sont quand même, on les voit en Europe aussi, enfin on voit que ça peut s'organiser très vite. Et peut-être le dernier mot sur ça, c'est que là, on va gagner avec le Congrès cette constitutionnalisation du droit à l'IVG.
Ça veut dire que ça sera, excusez-moi, ça veut dire que ça sera ancré dans la Constitution,
dans la Constitution.
Pour donner des explications concrètes à nos auditrices, nos auditeurs. Ouais. Et s'il y a un changement de gouvernement, on ne peut pas revenir là-dessus.
C'est beaucoup plus compliqué.
C'est plus compliqué.
Ce serait, voilà, il faudrait une quasi-unanimité pour revenir sur ça une fois que c'est dans la Constitution. Après, moi, je vais mener le combat pour ancrer le droit à l'IVG aussi dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et c'est un combat à mener, je pense, derrière. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi que la France puisse être un point d'appui
pour
d'autres pays. Ouais. Voilà.
C'est le premier pays qui fait ça.
Il me semble que la Slovénie a aussi cette question-là dans ses droits fondamentaux, mais c'est un point d'appui en Europe et dans le monde, et ça c'est très important pour pouvoir après garantir en Europe. On sait, hein, on a vu en Espagne à quel point avec un gouvernement de droite réactionnaire ça pouvait arriver très vite la remise en cause du droit à l'IVG. On l'a vu en Pologne. Là, on vient d'avoir un changement positif. La pilule du lendemain va pouvoir être permise en Pologne. Donc c'est le moment d'avancer et de pouvoir inscrire ça aussi comme un droit en Europe.
Toujours vigilante alors.
Toujours vigilante, on gagne une énorme bataille et c'est très émouvant pour les générations passées, pour les femmes dans le monde. J'espère que c'est un message qui va être entendu et puis il faut continuer. C'est une marche. On passe à celle d'après qui sera la marche de l'inscrire dans les droits européens.
Encore une chose sur la question de l'IVG et sur l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport aux extrémistes, on va le dire comme ça, aux conservateurs qui sont encore présents. Vous avez parlé de la fermeture de centres d'IVG. L'hôpital Tenon dans le 20e, je passe souvent devant, il y a encore quelquefois des nostalgiques des anti-IVG qui sont là, des anciens, mais il y a aussi des nouvelles générations qui pensent ça, qui sont anti-IVG. C'est pour ça qu'il faut, quand je parle de vigilance, ça veut dire qu'il faut effectivement être
ils sont très présents sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur les réseaux sociaux, près des jeunes. Il y a des jeunes qui sont contre le droit à l'IVG. Des jeunes extrémistes religieux de tout poil, voilà, on le sait, et ils sont présents sur les réseaux sociaux, et ils font de la désinformation. Là, donc, on a déposé plainte avec la ville de Paris pour les anti-IVG qui avaient posé des autocollants sur les Vélib. On s'est rendu compte, en voulant les identifier, que les adresses sur les sites internet déposés étaient fallacieuses, farfelues. Donc c'est comme ça qu'on a pu faire fermer dans le cadre d'une procédure qui continue et qui verra le jour en 2025. Moi, je cherche à identifier qui sont ces personnes derrière, parce que oui, il y a des jeunes, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Moi, je veux savoir qui finance. Et qui sont les personnes qui sont derrière ça, parce que il y a des lois en France, et notamment on n'a pas le droit d'entraver le droit à l'IVG actuellement. Il faut faire appliquer les droits. Il faut faire appliquer les lois. Même quand on constitutionnalise,
absolument,
derrière, il faut le faire appliquer. Pour le faire appliquer, il faut concrètement des personnes, des agents, des salariés, des professionnels, des associations qui accompagnent, et puis aussi quand il y en a qui cherchent à entraver, eh bien il faut être ferme face à ça.
Sur cette question de l'IVG et puis faire appliquer les lois, vous avez parfaitement raison, évidemment, Hélène Bidard, parce qu'on s'aperçoit que dans d'autres lois d'égalité femmes-hommes, sur égalité salariale ou autre, quelquefois c'est pas appliqué. Donc là aussi, il faut toujours avoir une vigilance.
Exactement.
On va poursuivre avec vos engagements sur la ville de Paris, puisque vous êtes élu dans la capitale. Vous allez organiser le 7 mars prochain un grand après-midi riche de débat, on va le développer dans un instant, dans la deuxième partie de notre rencontre. Gagner l'égalité, c'est sportif. On est à quelques mois des JO, donc on va parler de ça. Mais peut-être avant, je voudrais qu'on parle de tout ce qui est important de faire sur les questions d'égalité femmes-hommes encore aujourd'hui, qui n'aurait pas été fait, si je puis le dire ainsi, mais qui en réalité est nécessaire et est urgent. On va parler des violences faites aux femmes, évidemment, mais il y a, voilà, qu'est-ce qui, en vous, aujourd'hui, dans la société que nous traversons aujourd'hui, avec ces inégalités, avec la précarité, avec les violences, je viens de le dire, mais beaucoup d'injustices impactent les femmes de manière générale.
Oui. Il se passe quelque chose quand même avec MeToo, pas que sur les violences. C'est-à-dire que depuis 2017, moi, j'ai toujours vu le début de MeToo, j'ai toujours vu ceux qui ne sont pas féministes, celles et ceux qui ne sont pas féministes, celles aussi, hein, y a des femmes, qui ne sont pas féministes, dire « Ah, c'est une vague, c'est 3 mois de dénonciation, ça va passer ». Moi, j'ai toujours eu confiance dans ce mouvement parce que je pense qu'il se passe vraiment quelque chose de profond dans les mentalités et qui pousse tout le monde à agir. Moi, je le vois comme élue parisienne. On est passé de quelques actions le 8 mars pour la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes ou le 25 novembre contre les violences faites aux femmes. Quelques actions dans certains arrondissements mobilisés, militants. Maintenant, c'est dans tous les arrondissements. Quelle que soit la classe sociale, quelle que soit l'origine, quel que soit le choix politique, on retrouve des actions partout. Il se passe vraiment quelque chose de profond dans les mentalités, dans la lutte contre les violences, mais aussi, je pense, pour l'égalité derrière, et notamment l'égalité salariale et professionnelle. Maintenant, dire, ça n'est pas faire. Et c'est, il faut dire, il faut dénoncer, le rôle des militantes, etc. Mais le rôle des politiques ne peut pas être que de dire, de se payer de mots et de ne rien faire derrière.
Le
et c'est
et
sur
faire.
Ça, il faut faire derrière. Il faut des budgets sur les violences faites aux femmes pour lutter contre les violences. Il faut des budgets pour l'égalité salariale et professionnelle. C'est gentil hein, de dire il y a que 3 femmes du CAC 40 qui sont des patronnes. On voudrait que toutes les femmes... D'accord. En attendant, quand on regarde l'égalité salariale et professionnelle où la France se targue d'être en avance, on sera à l'égalité salariale à ce rythme-là en 2186. Moi, c'est très gentil, mais j'ai pas l'âge d'attendre 2186.
Merci, Hélène Bidard. Je rappelle que vous êtes l'invitée de Vos Chapitres ce dimanche matin. Vous êtes adjointe à la mairie de Paris, chargée de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et nous parlons du 8 mars, dans un instant.
Vos Chapitres revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h. Vos Chapitres avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Hélène Bidard. Elle est adjointe à la mairie de Paris, chargée de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Dans une première partie, nous avons largement évoqué la question du droit à l'IVG, qui est un droit fondamental, puisque c'était aussi une de vos compagnes à Paris. On va aborder maintenant ce qui me semble être important d'évoquer avec vous, c'est... cette idée de... On a parlé de violences, des violences faites aux femmes, des violences au sein du couple, les violences du conjoint, les violences, etc. Il y a une journée internationale des violences faites aux femmes. Vous y avez aussi beaucoup œuvré pour que il y ait des combats qui soient menés pour faire reculer les violences faites aux femmes. On en est où aujourd'hui, justement, sur à la fois les lois, sur les dispositifs, sur ce que vous pouvez faire en matière de violences faites aux femmes? Il y a des féminicides qui ont augmenté en 2023 par rapport à 2022, évidemment. On n'a pas encore de chiffres là, mais on en entend hein, depuis début janvier, hein, des féminicides. On sait que 80% des plaintes ne sont pas reçues, enfin ne sont pas entendues, que des plaintes qui sont classées sans suite, comme on dit. 1% des plaintes, semble-t-il, aboutissent. Qu'en est-il aujourd'hui de la réaction à ces violences faites aux femmes?
1% des viols sont condamnés. Donc l'impunité persiste. C'est ça le sujet. Je le disais tout à l'heure, je pense que profondément les mentalités bougent et bougent rapidement. Et nous avons énormément de chance, nous, femmes, de connaître cette période historique-là, de nous inscrire en tant que féministes dans cette période historique là. C'est incroyable, c'est merveilleux. Enfin, ça peut paraître paradoxal, mais moi je suis très heureuse de vivre cette période de dénonciation des violences et de changement profond des mentalités. Très heureuse, y compris même pour mes... J'ai des enfants qui sont des garçons. Je suis très heureuse pour eux parce que ils vont pouvoir vivre dans une société qui sera plus libérée du patriarcat et ils vont pouvoir s'épanouir en tant qu'hommes dans une société où pour les hommes aussi il y aura une certaine libération on arrivera à lutter contre ces violences efficacement. Donc il se passe quelque chose dans les mentalités, mais ça peut pas suffire. Et c'est pour ça que les chiffres, en fait, sur les violences conjugales, sur les violences sexistes et sexuelles, sur les féminicides, ne baissent pas en réalité, parce que nous n'avons pas, de la part de l'État, de politique financée. Parce qu'il n'y a pas de politique financée.
Il faut les moyens et l'État n'est pas au rendez-vous.
L'État n'est pas au rendez-vous. Et pire que ça, c'est très problématique parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus de dénonciations. Les femmes, elles ne s'amusent pas à faire des tweets et elles s'arrêtent là. Elles font des tweets, elles déposent plainte. Elles déposent plainte, ça veut dire que la justice est encombrée, que la police est encombrée, qu'il n'y a pas de travail avec les auteurs aussi des violences conjugales et des violences sexuelles, et que les associations qui accompagnent les victimes, elles accompagnent toujours plus de victimes sans avoir des financements de la part de l'État qui augmentent. Avec la ville de Paris, les trois années de 2017, de 2018 à 2021, on a augmenté les subventions pour les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes de 90%. Donc c'est énorme, mais ça n'aide pas suffisamment. On a besoin que l'État et l'ensemble des partenaires le fassent. Des associations, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les militantes associatives, elles en sont épuisées, puisqu'elles accompagnent beaucoup plus de femmes victimes de violences, qu'il n'y a pas plus de débouchés dans les services publics, qui sont en difficulté, et du coup, il y a un épuisement certain. Donc il ne faut pas lâcher, parce qu'en réalité, moi, ma conviction profonde, ce que je peux voir en ayant créé un observatoire des violences faites aux femmes, en travaillant avec la police, avec la justice, avec les associations, c'est qu'en réalité, si on veut, on peut en finir avec les violences faites aux femmes. On est en capacité, on a les moyens, on a des dispositifs, le téléphone grave danger, voilà, des choses très concrètes qui accompagnent les femmes. Si on le veut, on peut en finir avec ces violences. Et pour ça, il faut juste mettre les moyens.
Et avec une volonté politique.
Qu'il y ait une volonté politique. Que les parlementaires arrêtent de parler et de faire des discours sans fin dans les médias, dans la presse et à l'Assemblée, au Sénat, mais plutôt qu'ils votent des budgets concrètement et qu'ils regardent où va l'argent et comment est géré cet argent-là. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires pour accompagner les femmes dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a des fonctionnaires pour accompagner les femmes dans la police et dans la justice et qui soient formés à l'accueil des victimes? C'est ça l'enjeu. On ne peut pas faire des discours sans derrière regarder concrètement les fonctionnaires, l'argent, les budgets, l'argent pour les associations, comment ça se met en place après sur le terrain. Sinon, on est complètement déconnecté, on est dans une bulle et c'est le risque parce que ça fait énormément de déçus. Et donc moi je me bats pour mettre concrètement les choses en œuvre sur le terrain et ne pas lâcher ça parce que vraiment je suis en réalité très optimiste sur le fait qu'on puisse arriver en quelques générations à éradiquer ces violences.
Mais vous rappelez que, moi je le dis comme ça, l'État aujourd'hui n'est pas à la hauteur de justement vos préoccupations que vous soulignez en direction des femmes, des victimes de violences, Hélène Bidard. Mais les parlementaires aujourd'hui n'arrivent pas à mettre ceux qui sont progressistes, en tout cas qui seraient à soutenir le combat que vous menez, à imposer des questionnements sur ces questions-là.
Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des lois qui sont faites et qui ne sont pas applicables sur le terrain, qui ne trouvent pas de débouchés sur le terrain parce que elles sont en fait hors sol. Si on prend Marlène Schiappa, alors je prends un extrême, hein, de quelqu'un qui a pu communiquer beaucoup, dire beaucoup de choses, par exemple sur l'outrage sexiste. Elle crée la loi sur l'outrage sexiste. D'accord, l'effectivité de l'outrage sexiste, ensuite derrière, c'est quoi? C'est un policier doit constater que monsieur vient d'insulter madame de manière sexiste pour pouvoir ensuite obtenir une condamnation. Quelle effectivité il y a à ça? Moi, je trouve que c'était une bonne chose que l'État puisse dire nous condamnons le harcèlement de rue, etc. Ça, c'est une bonne chose. Mais après, la possibilité effective de le mettre en œuvre. Il y a tout un tas de dispositifs comme ça, avec une inflation législative, d'accord, mais en attendant, sur le terrain, on ne voit rien arriver. Sur le Grenelle des violences faites aux femmes, tout le monde a entendu parler du Grenelle sur les violences faites aux femmes. On a énormément communiqué. Je peux vous dire qu'à Paris, le Grenelle des violences faites aux femmes, c'est zéro. Zéro. Aucune place en hébergement. pour les violences pour les femmes victimes de violences. Aucun dispositif, rien, mais rien de rien suite au Grenelle. Donc c'est incroyable. On en a parlé pendant des mois, on a communiqué la grande cause de l'État, c'est 0 euro pour la ville de Paris, pour les Parisiennes et Parisiens qui luttent contre les violences faites aux femmes. Donc c'est très important à un moment à un moment de responsabiliser les politiques. On ne peut pas faire que du discours.
On va se retrouver dans la dernière partie de notre rendez-vous, mais avant, il est une chanson qui est scandée régulièrement dans ce combat des femmes, qui s'appelle l'hymne des femmes, et j'avais envie que ce dimanche matin, pour vous Hélène Bidard et pour toutes les femmes, on l'entende, et on vous retrouve ensuite pour nous présenter tout ce qui va se passer à Paris et dans la région parisienne, parce que beaucoup de villes se mobilisent pour le 8 mars, et en tout cas vos initiatives à Paris. L'hymne des femmes.
Qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, effacées de nos mémoires, levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde, reléguées, levons-nous, femmes esclaves. Every.
chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Et ce dimanche matin avec Madame Hélène Bidard, je le rappelle, elle est élue à la mairie de Paris, chargée de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et depuis le début de l'émission, nous évoquons le combat des femmes et les batailles à mener. Une bataille certes gagnée, on l'a rappelé tout à l'heure, autour de, finalement, dans la Constitution, l'IVG qui a été votée ce mercredi 28 février. Et tout ce qu'il faut poursuivre de combat pour le droit et l'égalité des femmes. On a parlé des violences faites aux femmes. Un certain nombre d'associations sont à vos côtés, vous, élus, qui sur le terrain, comme vous le faites, et les associations accueillent des femmes et sont à leur côté dans leur dans ce qu'elles traversent, hein, que ça soit des violences, que ça soit la précarité, que ça soit un certain nombre de problèmes. Et l'association Femmes Solidaires, que vous connaissez sans doute parmi toutes les associations féministes que vous rencontrez, vient de produire un plaintomètre. Alors c'est assez intéressant puisque il y avait déjà des marqueurs comme ça, des règles qui graduellement faisaient monter tout ce qui était grave dans le combat des femmes. Et ce plaintomètre, comme son titre l'indique, il évoque la graduation des plaintes que font les femmes quand elles arrivent victimes de violences dans un commissariat. Avec il est sur fond rose, avec un rose qui va jusqu'au rouge, avec au début jusque là tout va bien. C'est la période où elle va être entendue au commissariat. La vigilance qu'elle doit avoir aussi, c'est une deuxième séquence qui est plus foncée déjà. Et la dernière séquence, c'est rien ne va plus parce que là, faut pas rester seul, il faut vraiment essayer de tenir et de mener cette plainte, parce que beaucoup de femmes ne portent pas plainte, non ?
Oui,
de plus en plus, il y en a, mais en réalité, il y en a qui n'osent pas.
Bien sûr, mais c'est surtout qu'il faut agir au plus tôt. C'est-à-dire que quand on arrive à la plainte, il y a un continuum, il y a déjà eu beaucoup de violences, il s'est déjà passé beaucoup de choses, et donc je suis très contente que des associations comme Femmes Solidaires puissent sortir du matériel comme ça, comme le plaintomètre. Donc moi j'avais sorti avec la ville de Paris, avec l'Observatoire de Seine-Saint-Denis, le violentomètre, qui avait pour but de s'adresser aux jeunes dans leur premier couple, justement pour arriver à identifier ce qui était normal ou pas dans une relation. Et là c'est la suite, donc c'est très chouette. Je suis élue communiste, donc j'aime bien partager, j'aime bien que ça se diffuse comme ça et que ça prenne un caractère massif dans la société. C'est vraiment un très grand plaisir de voir ce dynamisme des associations pour faire des outils qui vont être très utiles.
Voilà, c'est des outils qui servent qui font de la prévention. Aux professionnels, à donner à leurs les gens qui viennent les voir.
Ouais.
Aux permanences de femmes victimes de violences, on donne.
C'est très important, c'est concret, ça touche directement dans la vie des gens. Moi, on me dit souvent, tu sais, j'ai vu le violentomètre dans la salle d'attente de tel médecin, je l'ai donné à telle copine, elle s'est rendue compte que dans sa relation, il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait en parler. Donc, c'est très important, c'est très utile et on peut faire les choses très concrètes comme ça.
Alors, vous êtes concrète, vous aussi, avec ce rendez-vous le 7 mars, Hélène Bidard et votre équipe, puisque vous allez organiser un certain nombre de conférences à l'Hôtel de Ville. C'est l'entrée est 3 rue de Lobo, à Paris, dans le 4e. On va donner l'adresse pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés. Vous nous dites comment va s'organiser cet après-midi?
Alors, avec grand plaisir, en fait. D'abord, tout le monde est invité. Parisien, pas parisien, parisienne, pas parisienne. Tout le monde peut venir. C'est à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est mieux de s'inscrire sur Internet. On peut retrouver les informations pour s'inscrire. À l'Hôtel de Ville, ça va s'appeler donc Gagner l'égalité, c'est sportif. On va y retrouver des sportives et des sportifs, des sportiveux essentiellement, qui seront là, surtout parce qu'elles seront porteuses de flammes pendant les Jeux Olympiques, parce qu'elles ont dénoncé des violences comme Sarah Abitbol dans le patinage, que je serais très heureuse de retrouver avec moi, des sportifs qui vont prendre la parole puisque bientôt arrivent les Jeux Olympiques et Paralympiques, que la France et Paris vont être regardés dans le monde, et nous voulons envoyer un message féministe au monde à cette occasion-là. On a parlé de la constitution du droit à l'avortement. Mais on pourrait parler de bien d'autres choses et le MeToo français, il est regardé aussi dans le monde. Je peux vous dire que les collages dans les rues sont regardés en Europe et donc on veut envoyer un message. Pourquoi ? Parce que il y a 100 ans, Alice Mia s'est battue pour qu'il y ait des femmes dans les Jeux Olympiques. Elle n'a pas eu le droit. Elle a fait ses propres jeux, elle n'a même pas eu le droit d'appeler ça des Jeux Olympiques pour les femmes. Elle a dû faire ses propres jeux, c'était il y a 100 ans. Et bien ces Jeux Olympiques à Paris, ce sont les premiers où il y aura autant de femmes que d'hommes sportives qui vont participer à ces Jeux Olympiques. Ça nous n'avons rien fait, c'est les athlètes, c'est les sportifs qui ont gagné ça. Elles ont mis 100 ans, elles ont gagné ça. C'est merveilleux. Et donc nous, il faut qu'on soit l'écho de ça pour dire qu'à Paris, on se bat pour les droits des femmes. Et on a un message à envoyer au monde. Et donc, venez écouter. Il y aura des tables rondes, il y aura des associations présentes. Et venez écouter les tables rondes où vous pourrez écouter Shala Shafiq qui viendra, qui est iranienne, écrivaine, poétesse, magnifique iranienne, qui nous parlera de la situation des femmes en Iran, mais aussi en France. Il y aura aussi Shukriya Haldar, qui est une femme afghane, qui est extrêmement connue aussi, que je suis très très heureuse d'accueillir. Il y aura le Haut Conseil à l'égalité qui sera représenté. Et puis, parce qu'aussi ça passe par la culture, je suis très très heureuse d'avoir invité Charlotte Arnoux, qui fait partie des femmes qui ont déposé plainte contre Gérard Depardieu, et qui viendra en tant qu'artiste pour danser, parce que dans sa plainte contre Gérard Depardieu, dans tout ça, ce qu'on a oublié, c'est que c'était elle aussi une artiste, et qu'il fallait aussi lui reconnaître sa qualité d'artiste. Donc je serais très heureuse de la voir danser à l'Hôtel de Ville, venez la voir. Et puis Oumou Baldé Diallo, qui est arbitre de foot et qui lutte contre l'excision, qui est réfugiée en France aussi. Donc voilà des femmes qui, il y aura plein de femmes réfugiées pour différentes raisons qui sont arrivées en France et qui ont un message féministe à envoyer et qui seront là le 7 à l'Hôtel de Ville. Venez.
Bah écoutez, c'est une belle invitation à aller passer la veille du 8 mars l'après-midi à l'hôtel de ville de Paris. Vous venez de parler des femmes du monde, on n'aurait pas le temps, on aurait, j'espère que vous reviendrez une autre fois, parce que oui. Moi je voulais un peu parler de la situation des femmes migrantes dans le projet de la loi Darmanin, parce qu'elle va être une inquiétude, hein. Je suis en train de l'étudier, j'ai rencontré Daniel Lechat, qui est une juriste et qui pointe bien les injustices que vont subir des femmes migrantes dans cette loi Darmanin, mais peut-être que on n'a pas le temps d'en parler là. On va juste...
Non mais c'est important de le dire, enfin moi je veux le redire, il faut l'abrogation de cette loi migration qui est scandaleuse, notamment pour les femmes migrantes. Comment peut-on dire, prétendre, comme le gouvernement, lutter contre le djihad islamique, etc., refuser l'accueil aux femmes afghanes, iraniennes et à tant d'autres au nom de cette loi immigration. Je pense qu'il faut arrêter un peu les... C'est une duperie totale. Et donc, moi, je suis pour qu'on puisse abroger cette loi et arrêter cette violence, y compris pour les femmes migrantes.
Merci, merci infiniment Hélène Bidard. Je serai au rendez-vous de l'Hôtel de Ville. Nous serons au rendez-vous de l'Hôtel de Ville avec beaucoup d'auditrices, d'auditeurs, je l'espère. Je rappelle le rendez-vous. C'est le jeudi 7 mars. 7h l'après-midi, à partir de 13h30, venez à l'Hôtel de Ville, la porte vous est ouverte, il faut s'y inscrire sans doute, ou pas, en tout cas oui. il y aura de la place.
C'est mieux.
L'entrée de l'Hôtel de Ville est 3 rue de Lobo à Paris, dans le 4e. Merci encore.
Merci
au revoir
beaucoup,
Hélène Bidard.
Samia, merci à vous.
Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.